France Musique. Musicopolis. Octobre 1752, Fontainebleau. La pièce fut très mal jouée quant aux acteurs, mais bien chantée et bien exécutée quant à la musique. J'ai vu des pièces exciter de plus vifs transports d'admiration, mais jamais une ivresse aussi pleine, aussi douce, aussi touchante régnait dans tout un spectacle, et surtout à la cour, un jour de première représentation. Ceux qui ont vu celle-ci doivent s'en souvenir, car l'effet en fut unique. C'est ainsi que Jean-Jacques Rousseau raconte dans Les Confessions la première représentation de son opéra « Le devin du village ». Jean-Jacques Rousseau donne de nombreux détails sur la création du devin du village en octobre 1752 à Fontainebleau, devant le roi, la reine et la cour. Pas tant sur la musique elle-même et son interprétation que sur la réception de l'œuvre et son propre ressenti. Il raconte d'abord qu'il est arrivé au théâtre dans le même équipage négligé qui lui était ordinaire, grande barbe et perruque assez mal peignée. Lorsqu'il se voit sur le devant d'une loge exposée au regard, il est d'abord mal à l'aise, puis il se raisonne et même il se raffermit, prêt à en découdre si d'aventure on l'attaquait sur sa mine. Soit effet de la présence du maître, soit naturelle disposition des cœurs, écrit Rousseau, je n'aperçus rien que d'obligeant et d'honnête dans la curiosité dont j'étais l'objet. J'en fus touché jusqu'à recommencer d'être inquiet sur moi-même et sur le sort de ma pièce, craignant d'effacer des préjugés si favorables qui semblaient ne chercher qu'à m'applaudir. J'étais armé contre leur raillerie, mais leur air caressant, auquel je ne m'étais pas attendu, me subjugua si bien que je tremblais comme un enfant quand on commença. J'eus bientôt de quoi me rassurer. Dès la première scène, qui véritablement est d'une naïveté touchante, écrit Rousseau, j'entendis s'élever dans les loges un murmure de surprise et d'applaudissements jusqu'alors inouïs dans ce genre de pièce. La fermentation croissante alla bientôt au point d'être sensible dans toute l'assemblée. À la scène des deux petites bonnes gens, cet effet fut à son comble. On ne claque point devant le roi. Cela fit qu'on entendit tout. La pièce et l'auteur y gagnèrent. J'entendais autour de moi un chuchotement de femmes qui me semblaient belles comme des anges et qui s'entredisaient à demi-voix. « Cela est charmant, cela est ravissant, il n'y a pas un son là qui ne parle au cœur. » Le plaisir de donner de l'émotion à tant d'aimables personnes m'émut moi-même jusqu'aux larmes et je ne l'ai pu contenir au premier duo en remarquant que je n'étais pas seule à pleurer. Je me livrai bientôt pleinement et sans distraction au plaisir de savourer ma gloire.
J'ai perdu tout. Tout mon bonheur, colombe délaisse, colombe.
La première scène du devin du village de Jean-Jacques Rousseau, d'une naïveté touchante, nous permet de faire connaissance avec la jeune Colette, qui se désespère de l'infidélité de son amoureux, Colin. Elle a l'idée de demander de l'aide. « Le devin du canton fait ici sa demeure », chante-t-elle. « Il sait tout, il saura le sort de mon amour ». L'action est lancée et sans être devin dans son village, on sait déjà que les amants seront réconciliés à la fin de l'ouvrage. Donc, plutôt que sur les péripéties de l'intrigue, revenons un peu sur les circonstances de composition. Et d'abord, oui, Rousseau est musicien.
Perdrai-je Colin son retour ? Dites-moi s'il faut que je meure.
Je vis dans votre cœur. J'ai lu dans le ciel.
Oh Dieu!
Modérez-vous!
Eh bien, Colin!
Vous êtes infidèle!
Je me meurs!
Et pourtant, il vous aime toujours!
Que dites-vous?
Plus adroit et moins belle, la dame de ces lieux!
Je me prie pour elle!
Je vous l'ai déjà dit! Vous aime toujours.
Et toujours il vous fuit.
Montez sur mon secours. Je prétends à vos pieds ramener le volage. Colin veut être brave, il aime à se paver. Sa vanité vous a fait un outrage que son amour doit réparer.
Bien sûr, aujourd'hui, on connaît plutôt Rousseau comme philosophe et homme de lettres. Pourtant, jusqu'en 1750 ou à 38 ans, il écrit son discours sur les sciences et les arts, il a été connu comme musicien et il se considérait comme tel. Sans avoir fait de grandes études musicales, il a appris à droite à gauche, avec son père violoneux et maître à danser amateur, en copiant des partitions, à la maîtrise de la cathédrale d'Annecy et dans les traités de Rameau. Pour vivre, Rousseau donne des leçons de musique et à partir de 1751, sa principale source de revenus sera le métier de copiste. On évalue son travail à des dizaines de milliers de pages de copies. À ce propos, il note dans les Confessions « Il faut avouer que j'ai choisi là le métier du monde auquel j'étais le moins propre. Non que ma note ne fût belle et que je ne copiasse fort nettement. » Mais l'ennui d'un long travail me donne des distractions si grandes que je passe plus de temps à gratter qu'à noter et que si je n'apporte la plus grande attention à collationner mes parties, elles font toujours manquer l'exécution.
Amour, crois, s'il s'inquiète, il s'endort, il est content. L'amour, crois, s'il s'inquiète, berger un peu coquette, oh, le berger plus constant. La bergère un peu coquette, oh, le berger plus constant. La bergère un peu coquette, oh, le berger plus constant. L'amour croit, s'il s'inquiète, il s'enrose, il est content. L'amour croit, s'il
Jean-Jacques Rousseau a voyagé en Italie à deux reprises. D'abord en 1728, à 16 ans, où il a passé plusieurs mois à Turin, puis en 1743, où il a été secrétaire de l'ambassadeur de France à Venise. Il a beaucoup aimé l'Italie, et en particulier la musique italienne.
Oh. se vide, e non vedite, non forbite, non gradite, sempre passe la marine, la marine. Bastare non venire, sarebbe non dormire, invece vile non gradire, non venire, non dormire, non gradire, non gradire. Sono tre, tre, tre cose, cose, cose,
Rousseau aime la musique italienne, mais il aime surtout la musique tout court. Et il a beaucoup d'admiration pour le grand compositeur de l'époque, génie de la composition et de la théorie, dont il lit avidement les traités, même s'il les trouve difficiles, j'ai nommé Rameau. Cette admiration va durer jusqu'au jour funeste de 1744, où Jean-Jacques présente quelques extraits de son premier opéra, Les Muses Galantes, dans le salon de Madame de la Pouplinière. Grand admirateur de Rameau, le jeune compositeur Rousseau se met en quelque sorte sous la bienveillante protection de son aîné. Mais voilà, l'aîné Rameau n'est pas du tout, mais alors pas du tout bienveillant. Et il assassine à proprement parler la musique et le compositeur des Muses Galantes. On trouve le récit de cette scène de la plume des deux protagonistes qui racontent la même chose. Voici un petit extrait de la version Rameau. Je fus frappé d'y trouver de très beaux airs de violon dans un goût absolument italien. Et en même temps, tout ce qu'il y a de plus mauvais en musique française, tant vocale qu'instrumentale. Ce contraste me surprit. Et je fis à l'auteur quelques questions auxquelles il répondit si mal que je vis bien, comme je l'avais déjà conçu, qu'il n'avait fait que la musique française et avait pillé l'italienne. Vous avez peut-être remarqué à l'interprétation de cet extrait des Muses Galantes de Jean-Jacques Rousseau que l'enregistrement date un peu. Bernard Cotteret, baryton, avec l'orchestre des concerts du conservatoire dirigé par Roger Cotte. En effet, si j'en crois une étiquette portée sur ce 33 tours, il est entré à la discothèque de l'ORTF en juin 1966. Tout un disque consacré à Rousseau musicien, dans lequel on trouve quelques pages qui n'ont jamais, à ma connaissance, été enregistrées depuis lors. On voit par là que la double réputation de musicien incapable ou de plagiaire que lui a faite Rameau est encore à l'œuvre aujourd'hui et que les ensembles de musique baroque ne se pressent pas pour redécouvrir sa musique. Hormis Le Devin du Village, qui a fait l'objet de plusieurs versions, dont la dernière en date en 2017 avec les nouveaux caractères de Sébastien Desrains et les voix de Caroline Mutel, Frédéric Caton et Cyril Dubois.
L'amour et vos leçons m'ont enfin rendu sage. Je préfère connaître à des biens superflus. J'ai su lui plaire en ma vie de virage. sous un habit doré, qu'obtiendrai-je de plus?
Colas, il n'est plus temps, et Colette t'oublie.
Elle m'oublie, au ciel! Colette a pu changer.
Elle est femme jeune et jolie. Mon cœur est-elle à se venger?
Non, non, Colette n'est point trompeuse. Elle m'a promis sa foi. Non, non, Colette n'est point trompeuse. Elle m'a promis sa foi. Elle m'a promis sa foi. Amoureuse d'un autre berger que moi, peut-elle être l'amoureuse d'un autre berger que moi? Non, 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 Colette n'est point trompeuse, elle m'a promis sa foi. Non, non, Colette n'est point trompeuse, elle m'a promis sa foi. Elle m'a promis sa foi.
On se doute que le couperet du jugement de Rameau tombé sur Rousseau a dû être difficile à digérer pour le cadet, qui avait jusque-là voué une immense admiration à l'aîné et qui ne demandait pas mieux que de recevoir ses conseils. Quoi qu'il en soit, après cet épisode, certains considèrent encore Rousseau comme suffisamment musicien pour pouvoir écrire les articles de musique de l'Encyclopédie, qui seront critiqués bien sûr par Rameau. On notera que la plupart de ces articles, écrits dans la hâte et la précipitation en 1749, seront repris et augmentés plus tard par Rousseau dans son dictionnaire de musique, qui reste une source indispensable pour la musique du XVIIIe siècle. C'est dans les Confessions qu'on trouve le récit par Rousseau de la jeunesse du devin du village. Il est alors invité par son ami Mussard à prendre les eaux à Passy. Oui, on prenait les eaux à Passy, à la campagne, tout près de l'actuelle maison de la radio. Mussard jouait du violoncelle, raconte Rousseau, et il aimait passionnément la musique italienne. Un soir, nous en parlâmes beaucoup avant de nous coucher, et surtout des opérés bouffés que nous avions vus l'un et l'autre en Italie et dont nous étions tous deux transportés. La nuit, ne dormant pas, j'allais rêver comment on pourrait faire pour donner en France l'idée d'un drame de ce genre. Le matin, en me promenant et en prenant les eaux, je fis quelques manières de vers très à la hâte et j'y adaptai des chants qui me vinrent en les faisant. Je barbouillais le tout dans une espèce de salon voûté qui était au haut du jardin. Et à l'heure du thé, je ne pus m'empêcher de montrer ces airs à Mussard et à Mademoiselle Duvernoy, sa gouvernante, qui était en vérité une très bonne et aimable fille. Grâce aux encouragements de son ami Mussard et de sa gouvernante, Rousseau se pique au jeu et en quelques jours à Passy, il écrit le texte et esquisse toute la musique de son devin du village. Il n'aura plus qu'à l'orchestrer et mettre tout au propre en rentrant à Paris. L'œuvre, présentée de manière anonyme aux musiciens de l'opéra, va leur plaire. Et vous connaissez la suite, la première a lieu à la cour à Fontainebleau avec grand succès le 18 octobre 1752.
Bien plus de fracas, mais sont-ils aussi gais dans leurs ébats? Toujours contents, toujours chantants, mais ils s'en vont, protestantales, où leur conservent-ils nos musées?
Allons danser sous les ormeaux, animés tous jeunes fillettes, allons danser sous les ormeaux, car on peut dire qu'au chalumeau, allons danser sous les ormeaux, animés tous jeunes fillettes, allons danser sous les ormeaux, car on peut dire qu'au chalumeau.
Scène finale du devin du village, texte et musique de Jean-Jacques Rousseau, Caroline Mutel soprano Colette avec les nouveaux caractères dirigés par Sébastien Desrains. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Cédric Châtelus pour le mixage et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.